France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'à la fin des années 50, quand ceux qui espéraient faire connaître leurs chansons se retrouvaient place de la Contrescarpe. Pour évoquer ce Paris disparu, j'accueille Michel Bernstein, alors au cœur du mouvement lettriste puis situationniste, mais aussi animatrice d'un cabaret chantant. Elle est venue en compagnie du cinéaste Serge Corbert, un de ses jeunes camarades de l'époque, lui-même proche de Bobby Lapointe et de Rissé Barrier. Michel Bernstein et Serge Corbert à mes côtés dans quelques instants pour nous raconter toute cette histoire en musique. Say it with music, dis-le en musique, c'est tout le programme de cette émission et c'est une très jolie chanson d'Irvin Berlin par l'orchestre de danse de la BBC et le chanteur Jack Payne en 1931.
France Musique, étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Et je vous l'ai dit, pour cette avant-dernière émission de la saison, nous allons remonter les pentes du Quartier Latin dans les années 1957-1960, quand de jeunes auteurs-compositeurs à guitare se croisaient à la chope, chez Arlette et en d'autres lieux de la montagne Sainte-Geneviève. Michel Bernstein, qui avait épousé Guy Debord, devint ainsi pour quelques mois l'animatrice de La Méthode, rue Descartes. En 1960, elle se ferait connaître par son roman Tous les chevaux du roi, avant de tenir une fameuse chronique littéraire dans Libération. Au même moment, Serge Corbet partageait sa vie entre la cinémathèque et le cabaret Le Cheval d'Or avant de connaître le succès comme réalisateur avec Louis de Funès. Quant à moi, j'ai eu le plaisir pour cette émission d'organiser les retrouvailles entre ces deux amis d'il y a 60 ans.
Sur un air de musique légère, le roi blanc sonnait trompette, le roi blanc battait tambour. Sur un air de musique légère est parti pour la guerre, est parti pour la guerre. On avait assez de l'amour, sonnait trompette, des chants, des concerts et des fêtes, et puis des chasses à cour. Sur un air de musique légère, le roi blanc est parti pour la guerre, battait tambour sur les carrés blancs, les carrés noirs, les grands carrés du désespoir. Sur un air de marche militaire, le roi noir sonnait trompette, le roi noir battait tambour. Sur un air de marche militaire est parti pour la guerre, est parti pour la guerre. Et pour amuser sa cour, sonnait trompette, il faisait couper des têtes deux ou trois fois par jour. Sur un air de marche militaire, le roi noir est parti pour la guerre, battait tambour. Sur les carrés blancs, les carrés noirs, les grands carrés du désespoir. Et sur un air qui n'existe pas, les deux rois sonnaient trompette, les deux rois battaient tambour. Et sur un air qui n'existe pas, ont tué tous leurs soldats, ont tué tous leurs soldats. Fini les joies et l'amour, sonnaient trompette. Fini les rires et les fêtes, sont tombés pour toujours. Et sur un air qui n'existe pas, sont tombés tous les soldats de bois, battaient tambour. Sur les carrés blancs, les carrés noirs, les grands carrés du désespoir. Et sur un air de bal, sans tambour ni trompette, en caressant la tête d'un fou et d'un cheval, sont retournés chez eux, vaille que vaille, sans même jeter les yeux sur le champ de bataille. Sur les carrés blancs, sur les carrés noirs, sur les grands carrés du désespoir, le long de la route en damier, du grand échiquier des bagarres, du grand échiquier noir de l'histoire.
Bonjour Serge Corbert.
Bonjour.
Bonjour Michel Bernstein.
Bonjour Benoît.
Ça, c'est un des disques de votre discothèque. Vous conservez précieusement des quantités de 45 tours de l'époque. Le chanteur, il s'appelle Alain Clavier. Il faisait partie de ceux qu'on pouvait entendre à la Contrescarpe à la fin des années 50.
Je l'ai entendu chez Arlette, c'est-à-dire le bistrot qui s'appelait la Contrescarpe, le plus grand, où à peu près tout le monde y passait. Et ce n'était pas un café-théâtre, c'était des tables. On buvait, on parlait avec les amis et en plus, il y avait des chanteurs.
Il y avait des chanteurs. Voilà,
et j'adorais Alain Clavier.
On peut dire que c'était le cœur battant du quartier quand il a commencé à devenir un quartier de cabaret et de chanteurs, hein, vraiment, chez Arlette. Donc.
Nous, on disait chez Arlette, ça s'appelait la Contrescarpe. C'était écrit la Contrescarpe.
La Contrescarpe. Alors Arlette, d'ailleurs, de son vrai nom, hein, c'était Arlette Renner, qui, d'après l'excellent livre Le Cabaret Rive Gauche, était à l'époque la compagne de Maurice Alezra, qui fondera quelques temps plus tard La Vieille Grille.
En 64.
Voilà, en 64, on en reparlera aussi. Mais voilà, c'est joli en tout cas d'avoir gardé cette collection de disques d'époque, parce que ce sont des choses à peu près introuvables aujourd'hui, vous savez, Michel Bernstein.
Moi aussi.
Et c'est grâce à ces titres Arte qu'on se retrouve aujourd'hui avec vous et avec Serge Corbert. Donc Serge, pour vous, cet endroit donc qu'on appelle chez Arlette ou la Contrescarpe, c'était aussi vraiment un lieu central de cette vie artistique et musicale du quartier.
Le lieu central, c'était plutôt un café qui s'appelait La Chope,
qui était juste
à côté.
Qui était
juste en face,
ouais, voilà, juste
de chez Arlette. Où se retrouvaient tous les chanteurs des cabarets, quoi, et les copains, quoi.
Mais il n'y avait pas de musique.
Il n'y avait pas de musique.
Voilà, pour la musique, c'était en face chez Arlette.
Exactement, mais on allait rarement chez Arlette puisque nous étions au Cheval d'Or.
Au Cheval d'Or. Donc, on en parlera aussi un autre café du quartier. Donc ça, c'est la fin des années 50. C'est vraiment le moment où ce quartier devient un quartier de chanteurs, prenant un peu le relais de Saint-Germain, de Saint-Michel, etc. Et c'est un moment aussi, c'est peut-être comme ça que vous êtes rencontrés. D'ailleurs, vous me disiez, Michel Bernstein, où on se parlait beaucoup à la terrasse des cafés.
Oui, ne me demandez pas qui a présenté qui à qui. On était à la terrasse de la Chope ou au Saint-Billard, le bistrot d'à côté. Si on était là, on se parlait.
Plus
si
qu'aujourd'hui
Bien, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai plus l'âge de parler aux gens en terrasse. Vous savez, mais à l'époque, on était tous jeunes et si on était devant des demi à la terrasse, il se trouvait machinalement qu'au bout d'une demi-heure ou de trois quarts d'heure, on se connaissait. Ça arrivait comme ça, mais Serge.
Oui. Moi, voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Nous nous sommes rencontrés avec tous les gens qui ont monté le Cheval d'Or.
Voilà.
On était des copains, on passait nos journées à la Chope. Et puis, il y avait une personne qui s'appelait Léon Tcherniak, qui avait hérité d'une mercerie, qui ne savait pas quoi en faire, et on lui a dit, on va monter un cabaret.
Voilà, alors ça, ce sera le Cheval d'Or. On a cité la contre-escarpe, pas très loin, il y a la méthode dont on va parler tout à l'heure. Voilà, le décor est à peu près planté. Alors, avant d'en parler plus en détail, je propose qu'on remonte un peu dans le temps pour chacun de vous deux, et pour finalement montrer un peu comment vous êtes arrivé là. Et on va commencer avec Michel Bernstein, en remontant, alors carrément, je pense, à votre enfance, parce que vous avez cité des chansons d'Yvette Guilbert sur le petit Jésus.
Oui, c'est la passion du doux Jésus, c'est une chanson moyenne. Non, j'ai très peu de souvenirs de mes 10 ans, de mes 11 ans. Non, jusqu'en 44, j'étais avec ma mère à la campagne, puisque je m'appelle Bernstein. Et ma mère, elle ne s'appelle pas Bernstein.
Votre mère était normande.
Oui, et mon beau-père breton, donc j'étais plutôt tranquille. Mais les seuls souvenirs que je garde de la TSF d'autrefois, c'est « La passion du doux Jésus » d'Yvette Guilbert, une chanson de Paul Delmé chantée par Vanny Marcoux, que j'ai retrouvée, et Irène de Trébert, je crois qu'elle s'appelait, chanteuse Zazou, « Oh quelle joie !» Et le soir, c'était « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Voilà.
Alors, je propose, c'est pas la plus joyeuse, mais elle est tellement géniale, l'interprète, qu'on écoute justement la passion du doux Jésus, enregistrée par Yvette Guilbert.
La passion du doux Jésus, qui est moult triste et dolente, écoutez-la, petits et grands, s'il vous plaît de l'entendre. Il a marché pieds nus 7 ans pour faire pénitence. Il a jeûné 40 jours d'une pomme d'orange. Encore n'a-t-il pas tout pris en fibre à ses anges. Il entra dans Jérusalem par un jour de dimanche. Alors Saint-Pierre dit à Saint-Jean, voyez, quelle révérence! Oui, mais Jésus a répondu, non, c'est trahison bien grande. Avant qu'il soit vendredi nuit, vous verrez mon corps pendre. Vous verrez mes bras étendus sur une croix si grande. Vous verrez mon chef couronné d'une aubépine blanche. Vous verrez mes deux mains clouées et mes pieds mis ensemble. Vous verrez mon côté percé par un grand coup de lance. Vous verrez mon sang découler tout le long de mes membres. Vous verrez mon sang ramassé par 4 petits anges. Vous verrez ma mère à mes pieds bien triste et bien dolente. Vous verrez la terre trembler et les pierres se fondre. Vous verrez la mer flamboyer comme un tison qui plombe. Verrez la lune et le soleil qui combattront ensemble. Amen. La passion du doux Jésus, qui moult triste et dolente, qui la saura, qui la dira, gagnera l'indulgence. Amen.
elle est quand même étonnante, cette Yvette Guilbert. Là, c'est en 1933, donc elle a enregistré cette passion du Doux Jésus d'après une chanson traditionnelle, revue avec son style, et que donc Michel Bernstein, à l'âge de 12 ans, vous entendiez à la radio, probablement en 1944, pour la mort d'Yvette Guilbert.
Certainement.
Voilà.
Et après, je me suis retrouvée dans des lycées laïcs gratuits obligatoires. Et comme j'étais pensionnaire, j'étais à l'âge de la Sorbonne, je n'ai pas entendu beaucoup, beaucoup de musique, mais un peu, mais pas beaucoup, et surtout pas de chansons.
Surtout pas de chansons. Mais après, donc vous êtes retourné à Paris, où
oui.
Vous êtes rapproché de votre père, Michel Bernstein, qui était un célèbre marchand de livres, collectionneur, etc. Et vous avez commencé des études plus ou moins assidûment. Et puis, vous avez aussi commencé à beaucoup fréquenter donc, les cafés parisiens.
Alors, je n'étais pas assidu du tout. Je n'étais pas chez mon père, que j'ai quitté assez vite. J'ai quitté la Sorbonne pour retrouver ma bande rue Dufour.
Rue Dufour.
C'est-à-dire un second quartier Saint-Germain, si l'on peut dire, mais assez musical, je dois dire, où on chantait beaucoup de vieilles chansons. Et comment nous sommes arrivés, nous avons, vers 53, quitté le 6e pour aller dans le 5e.
Voilà. Mais alors, arrêtons-nous un instant. Rue Dufour, c'était un endroit qui s'appelait chez Moineau, hein.
Voilà.
Et c'est là que vous vous retrouvez régulièrement avec Guy Debord, que vous allez épouser 2 ans plus tard en 1954. Et donc vous disiez, oui, dans des ambiances, c'était pas du tout encore Debord, personne ne le connaissait, le mouvement lettriste était à peine en train de naître, mais vous chantiez des chansons.
Ah ben entre nous, mais il y avait...
Alors c'était quel genre de chansons?
Ah bien, à l'époque, on était très influencés, je suppose, par Jacques Douai, sans le savoir.
Ah oui.
On chantait Le Roi Renaud, on chantait La Belle au Jardin d'Amour, La Biche au Bois, ce genre de choses. Et puis il y avait les superbes jukebox où on peut choisir la chanson qu'on met, contrairement aux radios de maintenant, où voilà. Il faut tout entendre pour, si on veut en entendre une. Mais il n'y avait pas de chanteur officiel.
Oui.
On était là, on jouait aux échecs et on chantait. Il y avait toujours un ou deux qui avaient une guitare sous le bras, voilà.
Et alors vous allez vous déplacer un petit peu effectivement d'un bistrot à l'autre en vous dirigeant vers la montagne Sainte-Geneviève.
Voilà.
Et en passant par un endroit dont on retrouve l'adresse d'ailleurs dans la revue célèbre pour ceux qui s'y intéressent, Potlatch, la revue des lettristes, une adresse rue de la montagne Sainte-Geneviève.
C'est
qui était
ça.
Un autre bistrot.
C'était un autre bistrot parce que Debord avait emmené sa bande, y compris moi, parce qu'il ne voulait pas rester chez Moineau pour des raisons à lui. Mais chez Moineau, il y a eu des tas de choses. Il y a eu des nouveaux réalistes, il y a eu... Enfin, c'était quand même un foyer artistique qui ne voulait pas l'être.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, effectivement, la revue Lettriste, puis la revue Situationniste, officiellement, auront pour adresse le Tonneau d'Or, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Et c'est là que vous allez rencontrer donc, un chanteur qui fait partie de la bande, qui s'appelle Jacques Florenci.
Pas tout à fait. Je vous reprends, et là, pardonnez-moi, c'est une histoire d'amitié. Guy Debord, donc, et moi, nous mangeons quelquefois et... très bon marché, dans un bistrot qui s'appelait Le Manouche. Ça devait être rue de l'Ancienne Comédie, où ouais. Jacques Florenci jouait de la guitare et chantait un peu.
Ouais.
Après, comme nous sommes devenus amis avec lui, on l'a suivi dans un autre bistrot qui s'appelait Le Mont Blanc, rue de la Huchette. Et quand le bistrot Le Mont Blanc, rue de la Huchette a été vendu et que Jacques a été, que Florenci a été sur le pavé, c'est lui qui a trouvé un petit bistrot qui ne servait à rien, qui s'appelait le Petit Bacchus, et il a parlé avec la propriétaire en disant « on va vous en faire un cabaret ». Mais autrement, on allait aussi chez Arlette Renergue, à la Contrescarpe, surtout à la Contrescarpe, beaucoup plus tard chez Bernadette, chez Alain Clavier, bref.
On en reparlera, mais vous allez ouvrir donc ce bistrot avec Jacques Florenci, la méthode. On va en parler dans un instant, mais je propose qu'on retrouve la voix de Jacques Florenci. Alors malheureusement, il a fait un ou deux 45 tours à l'époque, introuvables à la discothèque de la radio.
Je n'en ai aucun.
Vous ne les avez pas non plus.
Non.
Mais par contre, il a enregistré quelques années plus tard Gaston Couté, grand poète anarchiste, et cette chanson qui s'intitule « Feu de vigne ».
Ils avaient de très belles vignes dont le vin loyal et rosé était couleur de leurs baisers. Leurs 20 ans furent doux et dignes. Puis champ, pièce par pièce, dans le sol de pierre à fusil, la vigne est morte de vieillesse, et le bon temps est mort aussi. Il y'a plus de vin dans le cellier, y'a plus d'amour sous l'oreiller, mais j'ai une souche la vieille, une flamme rose en soleil, leur rate et leur cœur de janvier, leur âtre et leur cœur de janvier. L'esprit du bon vin qu'ils rêvèrent s'en vient pour eux flamber encore parmi le feu de Sarment mort, comme il a flambé dans leur verre. Leur passé sur leurs lèvres blêmes brûle à ne pouvoir préciser si ce qui s'envole d'eux-mêmes est un mot ou bien un baiser. Y a plus de vin dans le cellier, y a plus d'amour sous l'oreiller, mais j'ai une souche la vieille, une flamme rose en soleil, leur âtre et leur cœur de janvier, leur âtre et leur cœur de janvier. Devant la flamme enchanteresse, le vieux buveur qui ne boit plus sent parmi ses membres perclus couler les douceurs de l'ivresse. Et la vieille dont la pensée s'échauffe au feu du souvenir sans battre en sa poitrine usée l'amour qui ne veut pas mourir. Y'a plus de vin dans le cellier, y'a plus d'amour sous l'oreiller, mais j'ai une souche la vieille, une flamme rose en soleil, leur âtre et leur cœur de janvier, leur âtre et leur cœur de janvier. Ils avaient de très belles vignes dont le vin loyal et rosé était couleur de leur baiser. Leurs vingt ans furent doux et dignes, et dans l'attente de l'épreuve qui doit faire passer un jour leur âme en quelque vigne neuve, au vin clair comme un peu d'amour. Y a plus de vin dans le cellier, y a plus d'amour sous l'oreiller, mais j'ai une souche la vieille, une flamme rose en soleil, leur âtre et leur cœur de janvier, leur âtre et leur cœur de janvier.
Jacques Florenci, apparemment en 1987, donc dans cette chanson de Gaston Couté, vous l'avez croisé aussi, j'imagine, Serge Corbert, dans toutes ces années contre Escarpe, Jacques Florenci.
Oui, je l'ai croisé, surtout, ils passèrent en face du Cheval d'Or, dans une boîte qui s'appelait...
Encore une autre, il y en avait partout,
oui,
quoi.
Ça... pratiquement en face, qui s'appelait Plein Vent, ouais. Où il n'y avait que des guitaristes, il n'y avait que de la guitare, ouais. Et lui jouait des morceaux classiques, c'était un magnifique musicien. Guitariste, oui.
Voilà, alors on va revenir à votre propre itinéraire dans un petit instant, Serge Corbert, mais je voudrais revenir un peu à ce café, le petit Bacchus, où vous allez avec Jacques Florenci, Michel Bernstein, alors, et qui va devenir La Méthode.
Alors, Jacques Florenci, qui n'avait pas un rond, oui, dit à moi qu'il y en avait trois quarts d'un, puisque j'avais un travail et même j'étais en période d'indemnité, me dit, j'ai trouvé un bistrot où il n'y a que des ivrognes qui s'appelle Le Petit Bacchus. J'ai parlé à la propriétaire, on va en faire un cabaret.
Madame Autrel.
Elle s'appelait Madame Autrel.
Oui, voilà.
Alors, nous avons passé un contrat sur une feuille blanche, disant qu'elle apporterait les boissons et que nous apporterions les chansons et qu'on séparerait les bénéfices. C'était une erreur, nous étions jeunes. Alors, d'abord, il fallait remettre ça en état, ce qu'un copain du quartier, c'est-à-dire de Saint-Germain-des-Prés, a fait pour nous. On voulait l'appeler, ça c'est l'influence de Debord, c'était juste avant le référendum.
Pour la constitution de 58. Hein.
C'est voilà. Ça. Alors on voulait l'appeler au nom ferme et résolu.
Ça veut dire voter non. Hein,
ben oui, ben oui. Mais malheureusement, les murs n'avaient pas fini d'être blanchis. La France avait déjà voté oui. Alors nous étions en panne de nom, et ça je suis fier de cela, c'est moi qui ai dit, en face de deux rues Descartes, ça s'appellera La Méthode.
Ben oui, c'est logique.
Et
oui.
Depuis c'est resté La Méthode.
Et donc vous vous êtes retrouvé finalement un petit peu, pendant un certain nombre de mois, animatrice d'un cabaret chantant.
Oui, voilà. Ça a duré je pense 6 mois. Pour rendre l'endroit propre. Et là, c'est vrai, j'ai emprunté des sous à mon père pour acheter des bancs, des tabourets, etc. Il était contre. Il avait l'impression que je tombais dans le stupre. Mais enfin, il s'est laissé faire. Et après ça, il a dû falloir encore 4 ou 5 mois avant que Guy Debord et moi nous disputions très fort avec la mère Autrel. Et c'est ainsi que s'est terminée mon équipée de La Méthode.
Directrice de cabaret.
Voilà.
Mais alors, ce qui est drôle, c'est
ce fut court. Alors, je suis retournée avec les amis boire chez Arlette Rennergue, chez Bernadette et ailleurs.
Ce qui est quand même assez amusant, c'est que là, on est juste dans les années où il y a ce passage donc de l'international lettriste à l'international situationniste, 57-58, mais que Debord, tout en étant évidemment très occupé par ce groupe, va contribuer avec beaucoup d'enthousiasme à la vie du cabaret, notamment en faisant des petites publicités pour l'endroit.
Il avait fait avec moi mais une alouette, un cheval, et moi c'est l'alouette. On avait fait des tracts, des posters, il y en a un qui nous a valu une lettre furieuse de l'Express. Parce que c'était, Florenci était beau, il jouait de la guitare, on avait écrit Florenci, l'idole de la nouvelle vague. Lettre de l'Express, mon Dieu. Ils avaient les droits sur le mot « nouvelle vague ». Ils allaient nous faire un procès.
Ah oui.
Alors Florenci a pris sa plus belle plume et a dit « Excusez-nous, nous sommes victimes d'une malencontreuse coquille. Nous voulions faire un poster. Florenci, l'idéal de la nouvelle vogue. » Et puis après ça, on n'a plus entendu parler d'eux.
Alors j'ai d'ailleurs quelques-unes de ces petites formules publicitaires conçues par vous et Debord. Par exemple, « Le soir après 10 heures, si vous ne relisez pas Schopenhauer, vous êtes forcément à La Méthode. » De rue Descartes, etc. Et il y en avait des quantités comme ça. C'est le côté très, très ludique, en tout cas.
On s'amusait beaucoup. Et puis, dans les couvertures qui n'avaient pas servi de la revue, on avait découpé...
La revue internationale situationniste,
le premier numéro en 58. Alors, on avait découpé des cartes dans des couvertures qui n'avaient pas servi, et on avait demandé à ce que nos amis paient à prix coûtant pour qu'on ne fasse pas de bénéfices sur leur boisson. Malheureusement, ne venaient pratiquement à La Méthode que nos amis. C'est une des raisons pour lesquelles, Madame Autrel, ça n'a pas très bien marché.
Alors, parmi les chanteurs qui passaient là-bas, on a évidemment parlé de Florenci, il est même à l'origine, mais il y a aussi quelqu'un d'important dans ces années-là, c'est Daniel Lalou.
Oui.
Vous pouvez nous en dire un mot? Et puis on va écouter une chanson qui avait eu un certain succès d'ailleurs, qui s'appelle « Les Rémois ».
Il était passé chez Arlette avant. Je crois qu'il jouait du tambour. Au conservatoire, il avait fait du tambour.
Oui, oui. Au Cheval d'Or, il faisait un numéro de tambour.
Ah voilà, au Cheval d'Or, pas chez Arlette. Il faisait un numéro de tambour.
Au Cheval d'Or, il faisait un numéro de tambour, oui.
Voilà. À La Méthode, il est venu avec des chansons que nous adorions. Je le vois de temps en temps dans un film, pas trop récent quand même. Je ne sais pas où il en est maintenant.
J'aimerais bien faire une émission avec lui. En tout cas, vous me l'avez fait découvrir.
Oui.
C'est vraiment très
bien. Oh oui. Et alors, en plus, il était drôle et il était charmant.
Ma mère est éternelle. Ma sœur est dactylo. De ses doigts tactiles, elle tape avec tact des tracts à manger de la tarte. Allez tous confesse, car ça va être votre fête. Ils arrivent, ils sont là. J'ai la frousse des Chinois qui se lissent la moustiche. Tout là-bas, l'air et moi se turluchent la bonbonne de leur grande cathédrale. La musique n'est pas belle quand elle copie la poésie. La deuxième manière, c'est la manière obscure. Donnez-moi un calot, une faucille, un marteau, que je me noie dans la masse de la frisse des chinous qui se phrasent la mastache. Heureusement, les belles cuisses des rémoises sont en Suisse, en sûreté dans une banque. Le 18e siècle, c'est la grande attaque contre la monarchie absolue et le catholicisme.
aujourd'hui, j'ai perdu le respect des anciens et l'espoir de Malraux. Mais par contre, j'ai trouvé une rémoise dans mon short. Shortilège ! Quelle horreur, il y a un chinois dans ma chemise. Hihihi, faites-moi rire, jaune. En an de grâce, 1998, 600 millions de Rémois et 45 millions de Chinois se sont bien amusés. Alors, y'a pas de quoi s'affoler de soi.
Odorez-moi par Daniel Laloux, avec l'orchestre de Michel Colombier, magnifique orchestre bien sûr, et puis le tambour, donc Daniel Laloux, un de ces artistes qui chantait donc en 1957-58 à la méthode, n'est-ce pas Michel Bernstein, et qui aujourd'hui continue apparemment entre le cinéma, la chanson, etc. Peut-être qu'il nous entend.
J'espère. Peut-être avait-il peur de n'être pas original, ce qui aurait été une peur stupide, mais en plus il avait fait son disque carré. Vous avez dans la main un disque carré.
Mais c'est vrai. Voilà. C'est alors vrai. Parce que Michel Bernstein est venu avec toute sa collection, je le redis, de 45 tours. Et effectivement, il est carré. Ça, je peux en témoigner. C'est alors la première fois que je vois ça.
Alors, pour le mettre sur un pick-up, c'était la mort, la misère et la fin du pick-up.
C'est très lettriste comme concept, le disque carré, non? Un peu, vous faisiez beaucoup de plaisanteries du genre à l'époque.
Je pense qu'il ne s'occupait pas de ça. Non, ça, c'est... Je ne sais pas.
Serge Corbert, vous avez d'ailleurs, vous aussi, un petit peu connu les plaisanteries lettristes, notamment Isidore Isou et tous ces gens-là.
Oui, bien sûr, mais un petit peu grâce à Guy Debord. J'ai découvert Isidore Isou aux Sociétés Savantes, où il disait des poèmes lettristes, accompagnés d'un magnétophone, et il mimait ce qu'il disait sur le magnétophone.
Ah oui, voilà. Alors, on va revenir justement à votre rencontre dans un instant, mais je voudrais que vous nous disiez. Donc, vous arrivez à la Contrescarpe, il faut dire qu'en fait, vous habitiez le quartier, vous,
J'habitais en bas de la rue Mouffetard.
En bas de la rue Mouffetard, donc tout près, près des Gobelins.
C'est en remontant la rue Mouffetard, d'ailleurs, en allant vers la Cinémathèque, puisque j'étais un fan de cinéma.
Vous vouliez devenir cinéaste déjà, ou vous y pensiez, ou vous aimiez le cinéma en tout cas.
Disons, mais de loin.
Et la Cinémathèque, c'était par là?
La Cinémathèque, c'était rue d'Ulm.
C'était rue d'Ulm.
C'était donc derrière la Contrescarpe. Et on s'arrêtait forcément au café La Chope pour passer un moment avec les copains. Voilà.
Et donc, vous commencez à aimer ce coin et vous allez devenir un des piliers des débuts du Cheval d'Or. On l'a évoqué, on va y revenir tout de suite. Mais tout ça, ça passe aussi à travers deux personnages importants de la chanson de l'époque, très oubliés, au moins pour un d'entre eux, et l'autre connu plus par le cinéma, c'est Suc et Serre.
Oui.
Alors, redites-nous qui étaient Suc et Serre, plus précisément Jean-Pierre Suc et Henri Serre.
Deux personnes qui arrivaient, l'un de Sète, l'autre de Montpellier.
Voilà.
D'ailleurs, il n'y avait que des gens de cette région qui étaient montés à Paris pour chanter, des auteurs-compositeurs, sauf Serre qui n'était pas, lui, compositeur, qui était chanteur. Et j'ai rencontré Henri Serre en premier, toujours au Café de la Chope.
Toujours à la Chope.
Voilà. Toujours à la Chope. Toutes les rencontres se sont faites là avec Henri Serre, avec Bobby Lapointe, avec tous les gens du Cheval d'Or. On se rencontrait là et on passait des journées entières à discuter, oui, chansons. Il y avait beaucoup d'auteurs, compositeurs et c'était assez formidable. Jusqu'au jour où nous avons rencontré Léon Tchernia qui venait aussi prendre son café à la Chope.
Et qui donc avait une simple boutique à ce moment-là.
Il avait une boutique, donc au 33 rue Descartes, une mercerie. Nous avons décidé tous ensemble, Léon compris bien sûr, de faire de cette mercerie un cabaret.
Parce que c'était la mode? Parce qu'il y en avait partout? C'était...
Il y avait surtout des auteurs-compositeurs dans cette bande et qui rêvaient de chanter.
Oui, c'est ça, oui.
Il n'y avait pas de mode à ce moment-là. Ah. Ce n'était pas à la mode, quoi. À part le... Non, je crois que la méthode s'est montée après, mais nous étions...
La méthode en 58.
C'est ça, et le Cheval d'Or en 56.
Voilà.
Et donc, vous vous retrouvez tous dans cette mercerie qui est pour le coup aménagée donc en cabaret.
Oui, oui, oui. Et nous avons tous fait des travaux. On s'est mis au boulot. Moi, j'étais resté quelque temps à l'école Boulle. J'avais appris le métier de tapissier. Et bon, j'ai fait les rideaux de scène, j'ai fait des choses comme ça, et nous avons monté ce cabaret de nos mains.
Alors, ce qui est certain, faut préciser que Henri Serre, justement, tout le monde le connaît sans forcément le savoir parce que c'est l'acteur principal, homme de Jules et Jim, tout simplement. Quant à Jean-Pierre Suc, lui, il s'est suicidé en 1960, donc évidemment, il a laissé une trace plus ténue, même s'il reste quelques disques. Ce sont des artistes familiers pour vous aussi de cette époque, Michel Bernstein?
Non, j'ai surtout entendu Serre chanter à une table de la chope, mais un peu quand même au Cheval d'Or. Et c'est vrai qu'il était superbe, et à l'époque, il était très fauché. Il faisait un chantier, comme font les étudiants fauchés, et 6 mois après, toute la France le connaissait parce qu'il était Jules et Jim.
Voilà.
Mais je l'ai vu avant. Quant à Suc, je l'ai peu connu. Je connais les chansons, c'est tout.
Et ben on va en écouter une qui s'appelle...
Et c'était bien, oui, c'était très bien.
Ah oui.
Qui s'appelle L'amour à la mouffe, parce que finalement, c'était la mouffe ou c'était la contrescarpe, le vrai nom du coin?
C'était la mouffe et la contrescarpe.
Les deux, on peut dire l'un ou l'autre.
C'était un peu les deux.
Oui, oui.
Bon.
Au 24 de la rue Mouffetard, où dans un hôtel je logeais le soir. Dans cet hôtel j'ai trouvé par hasard l'amour, l'amour turpitude, l'amour euphorie, l'amour habitude, l'amour dans un lit, l'amour dans des draps blancs qui sont gris, comme tous les chats la nuit, au petit matin. Tous les jours un trombone, convaincu de talent, nous la jouait bien bonne. De face, de profil, il jouait sa chanson d'amour. L'amour turpitude, l'amour euphorie, l'amour habitude, l'amour dans un lit, l'amour dans des draps blancs qui sont gris, comme tous les chats la nuit. La nuit, une porte qui s'ouvre sur le fond du couloir, une femme noiraude qui traîne son mouflard, qui traîne son bambin, comme on traîne un refrain d'amour. L'amour turpitude, l'amour euphorie, l'amour habitude, l'amour dans un lit, l'amour dans des draps blancs qui sont gris, comme tous les chats la nuit, et moi dans mon lit. Avec elle, j'entends l'épicier d'en bas qui hurle à tout venant. Camembert pour pas cher, la douzaine et le sang. L'argent, l'argent turpitude, l'argent euphorie, l'argent servitude, l'argent pour un lit, l'argent de l'amour et l'amour de la vie. Le jour, la nuit, c'est à cause de lui que j'ai perdu ma belle. Le fait n'est pas nouveau, la chose est éternelle. Je veux croire pourtant qu'elle m'aimait, l'infidèle d'amour. L'amour turpitude, l'amour euphorie, l'amour habitude, l'amour dans un lit, l'amour dans des draps blancs qui sont gris, comme tous les chats sont gris. La nuit, la nuit, la nuit.
L'amour à la mouffe en 1957 par Suc et Serre. Serge Corbert.
Il y a une histoire vraie sur, malheureusement, Jean-Pierre Suc, qui disait à 33 ans, si je n'ai pas réussi, je me suicide. Et il a quitté le Cheval d'Or, il a pris le train pour retourner à Montpellier, et dans les toilettes du train, il s'est tiré une balle dans la tête.
Voilà, Jean-Pierre Suc, donc, dont on retrouve un peu les 45 tours avec Serre, mais c'est pas tellement facile. Et en tout cas, cette émission contribuera peut-être à aider à les faire rééditer. Et Michel Bernstein, je comprenais à l'instant que vous n'alliez pas tellement au Cheval d'Or, vous étiez exclusif dans vos choix. C'était vraiment la méthode chez Arlette
et
d'autres endroits.
Non, la méthode, ça a duré très peu. Oui. C'était beaucoup Arlette, parce que là, on avait beaucoup d'amis. Et plus tard, ce fut Bernadette. Et puis, c'était la chope dans la journée. Et puis,
mais, à l'époque, mais pourquoi vous n'alliez pas au Cheval d'Or?
C'était pas un choix esthétique du tout. C'est peut-être parce que au Cheval d'Or, c'était pas des tables où on buvait. On était déjà assis au Cheval d'Or.
Ah oui, c'était un spectacle.
Devant une scène,
en somme. On n'avait jamais eu la patente, on pouvait pas avoir d'alcool.
Voilà. Nous, on était plutôt du genre assis à une table bavardant avec des amis et buvant des verres en même temps, mais comme dans un bistrot.
Et vous alliez aussi, alors, plus loin, j'ai envie de dire, à la Colombe, à l'Écluse, etc.
Non, là, on est allé pour entendre une fois quelqu'un, mais c'était des endroits beaucoup trop chics pour nous.
Ah voilà, c'est ça. Oui, c'était pas le même monde.
Oh, non, pas du tout.
Pas d'accord. Alors, Serge Corvère, je reviens un petit peu à votre arrivée au Cheval d'Or. Vous allez être très présent dans tout le lancement de ce lieu qui est très ouvert sur les chanteurs fantaisistes, hein, on peut dire,
puisque je
pense à Rissé Barrier, à Bobby Lapointe, etc.
On ne prenait que des auteurs-compositeurs. Hein,
voilà, mais c'était souvent des chansons assez drôles, je veux dire, assez enlevées.
Oui,
assez,
avec, voilà. Avec de l'humour. Voilà. Oui. En dehors des chanteurs, on a Raymond Devos a fait tout de même ses débuts au Cheval d'Or, au tout début du Cheval.
Ah oui, c'est ça.
Pierre et Tex.
Ah oui, donc aussi des sketchs, des textes.
Pierre Richard et Lanou passaient en duo au Cheval d'Or.
Peut-être j'aimerais bien que vous nous disiez un mot un petit peu plus long sur votre amitié et dans ces années-là et votre travail même, puisque vous avez tourné ensemble, je crois, avec Rissé Barrier.
Oui, Rissé était un ami et il m'a emmené avec lui faire les tournées.
Il était déjà connu au début du Cheval d'Or,
à peine, mais tout de même, les frères Jacques avaient commencé à chanter ses chansons.
Oui.
Donc il commençait à être connu et reconnu. Il avait fait un ou deux tubes quand même.
Hein.
Oui. On était tourné, avec, si mes souvenirs sont exacts, avec Dalida.
Ah oui.
On passait en première partie.
Ah oui. Et vous faisiez quoi, vous ?
Moi, je faisais sa lumière. Je faisais un petit boulot de mise en scène quoi, avec lui.
Ah oui.
Et on s'amusait énormément.
Il avait aussi un complice qui était Bernard Leloup.
Alors Bernard Leloup, lui, écrivait les paroles des chansons. Ouais. Rissé Barrier écrivait la musique.
Et donc, c'était un des piliers du Cheval d'Or, Rissé Barrier.
Il est arrivé pratiquement au début.
Ouais.
Et il est toujours passé au Cheval d'Or, oui.
Vous avez continué à rester amis
oui,
au fil du temps.
Oui, jusqu'au moment où moi j'ai commencé à faire du cinéma, à ce moment-là... Je ne voyais plus personne.
Les chemins se sont un peu
malheureusement.
Éloignés. Malheureusement. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Michel Bernstein, pour qu'on écoute une chanson de Rissé Barrier, parce que je l'aimais beaucoup.
Beaucoup.
Vous aussi ?
Oui, oui.
Voilà, il est même venu dans cette émission au tout début, et il nous a quittés il y a quelques années. Alors, on pourrait écouter la Java des Hommes Grenouilles ou la Java des Gaulois ?
Ah, la Java des Gaulois, c'est bien, oui.
Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu l'as, c'était la loi des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledou. Il coupait le gui, mais à propos où coupait-il donc le hou? La chasse finie, les hommes réunis, plongés sur la nourriture. Au petit chilpéric qu'était rachitique, on chatait les épluchures. Poilu, barbu, le druide noble tête, arrivait pour la quête. Paye pas, planque-toi, c'était la loi des Gaulois. Quand ils guerroyaient, même les feuilles tremblaient, les femmes se jetaient à leurs pieds. Mais un beau matin, un sombre devin leur après-dit, ça va barder. Tout près des menhirs, la troupe en délire, astiqua les fers de lance. Vers Saint-Gétorix, un durin caïd étudia la carte de France. Bardé, casqué, un Jules nommé César arriva sur son char. Il leur a dit veni, veni, vidi, vici. On se tira les tifs, on se tapa sur le pif, mais on vit bientôt les légions. Des Romains pompettes qu'aimaient la piquette se collaient dans la vase de Soissons. La Gaule manque de bras, dit un chef gaulois, il faut retrousser nos manches. Ils firent des maisons, ils firent même les ponts, sauf le samedi et le dimanche. Poilu, barbu, il guinchait le samedi au bal sur pilotis. Flânant, crânant, on causait entre poteaux en regardant les Gauloises jouer les pompadours. Et la Gaule en dimanche chantait à plein gosier en trinquant à l'amour. L'amour.
Rissé et Barillet en 1958, la Java des Gaulois, cette époque où vous étiez donc ensemble, même dans les spectacles, et même déguisé parfois,
Serge Corbert. Je faisais un petit numéro avec lui au Cheval d'Or, déguisé en curé, j'avais une belle soutane.
Ah oui.
Et quand il chantait La Servante du Château, il parlait un peu de religion, comme ça, et je me levais au milieu de la chanson en disant « c'est un scandale, je ne peux pas dire des choses comme ça sur la religion, enfin un vrai scandale, comme ça ». Et il y avait un malaise dans la salle absolument horrible. Et les chanteurs qui passaient après m'ont demandé d'arrêter parce qu'ils faisaient le bide après. Parce que les gens étaient totalement déconcertés, quoi.
Il faut dire qu'aujourd'hui, les religions sont très à la mode. Vous étiez tous très anticléricaux, j'imagine, dans ce petit monde de la contrescarpe.
Cela allait de soi. On ne se demandait même pas.
Bien sûr.
Vous n'avez jamais programmé à la méthode ni Rissé et Barillet, ni Suc et Serre, ni ceux qui se donnaient. Chacun avait ses artistes, en quelque sorte.
Suc et Serre s'étaient déjà séparés et Suc ne s'entendait pas avec Florency.
Ah, c'était Florency qui décidait.
C'était quand même Florency l'artiste dans l'histoire.
Moi, rien.
Mais parce que Suc avait refusé Florency au Cheval d'Or.
Ah, inversement, d'accord.
Inversement, parce qu'il n'était pas auteur-compositeur de ses chansons.
Voilà, mais enfin...
Il avait tort, parce que le répertoire de Bruant, oui, était absolument magnifique, chanté par Florency.
Oui, comme on a vu aussi avec Gaston Coutet tout à l'heure, il savait vraiment faire revivre les chansons d'autrefois. Oui.
Avec juste ce qu'il faut de petite ironie, parce que trop d'ironie, ça aurait tué, pas d'ironie du tout, ça aurait été assez plan-plan, mais il avait ce grain d'ironie qui le rendait extraordinaire.
Ouais.
Si j'ose dire, meilleur que Patachou pour Bruant.
Ah oui, même. Carrément.
Je suis partiale.
Alors, inutile de dire que vous n'alliez pas non plus chez Patachou, ni tout ce qui se passait sur la rive droite, ça n'existait quasiment pas.
Jamais.
Jamais.
Jamais. J'ai jamais mis les pieds dans un endroit avec une nappe. D'ailleurs, on était tous fauchés, en plus.
Oui, c'est ce qu'il faut préciser. Bien sûr.
Mais Jean-Pierre Suc était très dur, parce qu'il avait même refusé Moustaki, à l'époque, parce qu'il avait composé La Foule.
Ah oui.
Et que c'était de la chanson commerciale. Et
Ah oui, il y avait quand même des règles presque politiques là, dans
absolument,
ce domaine. Alors, un autre personnage que vous avez connu vraiment à ses débuts, Serge Corbert, dans ce petit monde de la contrescarpe, c'est Bobby Lapointe. Vous l'avez vu débarquer sa province.
Il venait prendre des verres
à la chope.
À la chope, après ses cours, parce qu'il était professeur de maths. Et donc, on discutait chansons, lui écrivait. Il se plaignait parce qu'il n'arrivait pas à placer ses chansons. Les chanteurs trouvaient ça trop compliqué à chanter, trop difficile. Il avait ses petits cahiers, il me montrait ça, c'était absolument incroyable. Même les frères Jacques avaient refusé en disant...
Vous montrez ça au café, ces chansons, que personne ne voulait,
personne n'en voulait. Les frères Jacques avaient refusé parce que c'était trop compliqué à chanter. À un moment donné, je lui ai conseillé de venir au Cheval et de passer une audition avec Jean-Pierre Suc. Donc il a fait cette audition, il a été absolument formidable. Jean-Pierre Suc a trouvé ça magnifique et on l'a fait passer le soir même. Et le soir même, il a commencé à chanter. Au bout de la demi-chanson, il est sorti de scène, il est parti, on n'a plus revu pendant 15 jours. Il a eu un tel trac
terrorisé.
Et puis il est revenu doucement et parce que pour se donner du courage, il soulevait ses épaules dans le rythme de la chanson et Jean-Pierre Suc lui a demandé de garder ça parce que c'était assez drôle.
Drôle à regarder, évidemment.
Et là-dessus, François Truffaut, qui était client du Cheval d'Or, il venait très souvent, a découvert aussi Bobby Lapointe et l'a pris dans son film Tiré sur le pianiste.
Avec les paroles sous-titrées.
Lui a eu l'idée de sous-titrer les paroles, oui.
Voilà. En tout cas, ce qui me frappe, on va écouter Bobby Lapointe justement d'en tirer sur le pianiste, mais moi, avant de vous rencontrer tous les deux pour préparer cette émission, j'imaginais que vraiment que les chansons de la contrescarpe, c'était des chansons à texte, assez politiques, pré-68arde, etc. Et en même temps, en fait, on n'écoute que des gens pleins de fantaisie, de drôlerie, d'esprit, de gaieté, d'une certaine façon, Michel Bernstein.
Oui, on s'amusait beaucoup, mais il fallait s'amuser d'une façon drôle, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, il s'amusait d'une façon... Il fallait entendre Daniel Prévost, parce qu'il est passé au Cheval d'Or.
Il est passé là aussi.
Et il avait des chansons délirantes.
Oui, c'est ça.
Magnifiques.
On en a écouté avec lui, d'ailleurs, il y a quelques semaines, une de ses chansons de ses débuts. Et c'est vrai que c'est assez, assez formidable. Mm. Mais on va écouter Bobby Lapointe, justement, dans Framboise, cher à François Truffaut.
Magnifique.
Mm. elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle a vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Y a un institut d'Angers qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer. Excepté ce qu'on ne peut pas, qu'elle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins. 2 x 10, permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin.
Bobby Lapointe, donc à l'époque du Cheval d'Or, où vous étiez donc Serge Corbert, et où vous l'avez même conduit d'une certaine façon. Alors il faut dire que ce qui vous a rapproché tous les deux aussi avec Michel Bernstein à l'époque, c'est que vous rencontrez donc vous aussi à ce moment-là Guy Debord, qui est le mari de Michel Bernstein, mais oui. qui à l'époque non seulement crée l'International Situationniste, mais fait des films importants dans l'histoire, et donc vous allez être en fait son assistant pour un de ses films.
Oui, pour un de ses films.
Le premier, hein, c'est sur ça, le passage de quelques personnes.
Il avait fait avant
le film en faveur de Sade. C'est quand il avait 19-20 ans, c'est autre
c'est
chose.
Ça.
C'est un film noir et blanc.
Et donc, comment ça s'est fait, cette rencontre?
On va tout bêtement...
À la chope.
On s'est trouvé sympathique, certainement, et on a eu un bon contact. Et puis, on s'est retrouvé chez Michel ou chez Guy.
Oui.
Vous mangez des pâtes absolument formidables, cuisinées par Michel.
Ah, Michel Bernstein, vous faisiez des pâtes extraordinaires.
Ah, oui. J'ai un souvenir formidable, un souvenir d'enfance sympathique.
Ou c'était des pâtes, ou c'était des haricots William Saurin.
Oui, peut-être, oui. Comme on n'avait pas beaucoup de sous. Hein.
Non. On faisait souvent un bœuf avec Arlette, avec les chanteurs, ceux de la méthode ou ceux de la contre-escarpe. Arlette Renner aussi, elle venait après, quand le bistrot fermait, allait tous rue Saint-Martin.
Oui, ça je me souviens aussi.
Naturellement, il s'est disputé avec elle, mais ça c'est autre chose.
Serge Corbet, vous étiez conscient là, de participer à un mouvement d'avant-garde en travaillant avec Debord pour ce film, non?
Pas du tout, moi j'étais là un peu naïf, au milieu de tout ça, mais ça a commencé à vraiment m'intéresser, parce qu'il y avait une folie, quoi. Ouais. J'adorais, c'est formidable, parce qu'on avait... Il y avait eu cette projection aussi, je crois, aux Sociétés Savantes de ce premier film de Guy...
Hurlement en faveur de Sade.
Hurlement en faveur de Sade. C'était un film d'une heure et demie fait d'amorces noires et d'amorces blanches. Et c'était une folie totale, parce que je crois que c'était Guy qui disait le code civil sur la bande-son.
Il y avait autre chose que le code civil, quand même. Il y avait beaucoup de citations du code civil, mais il y avait un texte de Guy. Quand l'écran était blanc, il y avait la voix de Guy. Quand l'écran est en noir, il y avait un grand silence.
Oui.
Ça se terminait par un silence de 20 minutes. Et Serge Bernard, qui le présentait, disait attendez, à la fin, ça devient cochon.
Alors, Michel Bernstein, on l'a vu justement, bon, Guy Debord était vraiment très présent à la méthode, mais quand vous avez quitté la méthode, vous êtes allé dans d'autres endroits, donc chez Arlette, mais aussi chez une certaine, alors c'était plus bas, hein, c'était rue des Bernardins, chez une certaine Bernadette Durousseau-Dugontier, qui avait aussi son propre café, et où vous vous retrouviez ensuite pour vos soirées.
D'abord,
ça s'appelait chez Bernadette.
Non, ça s'appelait Lou Cantouche. Je ne sais pas. C'était Bernadette.
C'est ce que dit la Bible, de Gilles Schlesser.
Premier bistrot rue Thouin. Oui. Et deuxième bistrot rue des Fossés Saint-Bernard, ça s'appelle là, en bas, à côté de Jussieu. Oui. Voilà.
Et là, c'était encore une ambiance très, très bohème, puisque elle chantait tout en faisant la cuisine. Elle s'arrêtait au milieu des chansons pour aller retourner ce qui était sur le grill, etc.
Oui. Là, on a vu Romain Bouteille, Marc Augeret, Claude Serra.
Voilà.
J'en oublie, mais que des gens formidables.
Et c'est là d'ailleurs aussi qu'un certain Michel Colucci a fait ses débuts, en commençant par faire la vaisselle, avant de devenir Coluche et d'aller fonder avec Romain Bouteille le Café de la Gare.
Longtemps après.
Longtemps après. Ah, oui. Alors, on va évoquer encore ces années-là avec justement deux chanteurs qu'on n'a pas encore entendus. Dans un instant, Claude Serra, que vous venez de citer, mais aussi Jacques Marché, une très jolie chanson qui s'appelle « La dame à vapeur ». Peut-être faudrait-il nous dire, Michel Bernstein, qu'est-ce que c'est que cette chanson qui est signée à la fois Louise de Villemorin et Jean-Louis Valmont et interprétée donc par Jacques Marché. Louise de Villemorin, on la connaît, mais les autres.
Alors, Valmont, de son vrai nom Wincop, oui, qui est devenu ensuite Dupont de Dupont et Pondu, était un des garçons qui chantait à la méthode, à sous quel nom à ce moment-là, je ne sais plus, Valmont ou Wincop, et qui avait eu de la permission de Louise de Villemorin de mettre ses poèmes en musique. Et là, ça a donné des chansons merveilleuses que Jacques Marché a reprises après.
Voilà, Jacques Marché disparu aussi, mais grande figure aussi de cette vie.
Je l'ai beaucoup entendu chez Arlette, lui.
De l'époque, et notamment chez Arlette.
Belle sous la mauvaise étoile, un jour une dame à vapeur sur le pont d'un bateau à voile soupirait pour un voyageur, mais insensible aux vœux d'un cœur, il aimait une dame à voile à bord d'un navire à vapeur, à vapeur. Oh, demoiselle fragile, coquette des miroirs d'eau, voici le port, voici l'île, attendez le prochain bateau. Plus tard, devenue dame à voile, à bord d'un navire à vapeur, elle revit ce voyageur blanchi au feu de son étoile, mais il avait perdu son cœur sur le pont d'un bateau à voile au pied d'une dame à vapeur, à vapeur. Oh, demoiselle fragile, coquette des miroirs d'eau, voici le port, voici l'île, attendez le prochain bateau, attendez le prochain bateau.
Voilà, tout ça vient, je le rappelle, de la discothèque de Michel Bernstein, qui conserve fort bien tous ces témoignages d'une époque un peu lointaine, on peut dire maintenant, puisque c'était il y a 60 ans, à la Contrescarpe, qu'on entendait notamment Jacques Marché. Lui, nous a quittés en 2006, mais Michel Bernstein, vous me disiez, il a enregistré avec Jacqueline Dano des années plus tard des chansons situationnistes, justement.
Des chansons pas situationnistes, mais qui venaient du groupe situationniste.
Voilà, et
il y avait un faux Banda Bono, un faux une chanson à nard, une enfin des chansons très drôles chantées par Jacques Marché, et Jacqueline Dano étant sous contrat, elle avait signé, je crois, Ashroom ou quelque chose comme cela. Enfin, pas son vrai nom.
Elle était venue d'ailleurs ici.
Et c'était un disque qui s'appelle Pour en finir avec le travail. Pour moi, c'est une autre époque de ma vie. Donc Guy me l'a donné. Nous étions séparés depuis longtemps. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il avait déjà lancé le fameux ne travaillez jamais. Ça, c'est à l'époque où
vous
étiez ensemble.
Voilà. Non, c'est avant.
Même au tout début, voilà.
Oui.
Jacques Marché, vous l'avez croisé aussi dans ces années-là, Serge Corbert.
J'ai pas eu cette joie. Non, je ne connais pas. Non,
et Claude Serra.
Non plus.
Non plus.
Il ne passait pas au Cheval d'Or.
Il ne passait pas au Cheval d'Or.
Alors que Wyncoop, comme il était auteur-compositeur.
Jean-Louis Valmont dit Wyncoop, enfin, ou l'un ou l'autre.
Il passait au Cheval d'Or, mais quand il s'est fait appeler Valmont et chanter les chansons de Louise de Villemorin, il n'est plus passé au Cheval d'Or.
Ah ben voilà, parce qu'il fallait être auteur-compositeur.
Voilà.
C'était vraiment une règle très stricte alors.
Ah oui, oui, oui. Il y avait quand même quelques exceptions. Il y a eu quelques chanteurs tout de même qui ont été admis.
qui ont été admis, bon. Enfin, on sent que c'était pas facile. Alors, on va justement l'écouter, Claude Serra, parce que moi, j'ai trouvé ça formidable. Alors, c'est grâce à vous, Michel Bernstein, que j'ai découvert ce chanteur, dont j'ai pas vraiment réussi à retrouver la trace, mais qui avait apparemment un certain succès à l'époque avec ses chansons flash.
Mes amitiés à lui, s'il nous écoute, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il était merveilleux.
Voilà, le principe, c'est que c'est des chansons très très courtes, et on va en écouter quelques-unes, mais je crois qu'il va d'abord nous expliquer lui-même d'ailleurs un peu le principe de ces chansons flash.
Les deux principes fondamentaux de la chanson flash sont la suppression du refrain et l'inutilité du couplet. D'aucuns me diront que ces principes, s'ils sont valables chacun en soi, ne sont guère applicables simultanément. Hein, parce que s'il n'y a plus de couplets, s'il n'y a plus de refrains, disent-ils, il n'y a plus de chansons. Eh bien si, justement, il reste la coda. Alors, si. Non, mais pour les gens qui ne seraient pas au courant, la coda, c'est un petit nombre de vers qu'on rajoute à la fin quand on n'a pas réussi à inclure le dénouement dans le corps de la chanson. Hein. Alors, voici des chansons flash où il n'y a que la coda. Dans ces cas extrêmes, bien sûr, la situation est exposée dans le titre. Hein. Par exemple, la chanson des deux chiens qui reviennent du bal des anciens de la SPA. On a ri à s'en décrocher la queue. C'est tout. J'en ai un deuxième, comme ça, c'est une comptine. Une comptine pour les tout-petits de 3 à 4 ans. Elle s'intitule « La chanson du centaure qui est descendu de son cheval ». Alors là, attention, parce que c'est très court, c'est pour les petits. Hein, c'est... Étron, étron, plus de pâte à tron. Enfin, pour finir ce court exposé, j'aimerais... J'aimerais vous donner, mais à titre documentaire seulement, hein, j'aimerais vous donner la chanson flash la plus courte que je connaisse. C'est une œuvre qui fait penser, c'est pourquoi je l'ai intitulée « Chanson profonde ». Plouf. J'ai peut-être allé un peu loin là. Alors, mais vous savez qu'on m'a fait... On m'a fait une remarque très juste. Hein. On m'a dit, oui, c'est bien joli, mais enfin, ça n'est pas très dansant. Hein. Alors, je me suis permis d'écrire des flashs dansants, et mon premier est un slow rock, je dirais même plus un slow rock bucolique, puisqu'il s'agit d'un jeune veau qui déclare son amour à une génisse. Pour ton front si bien encorné, ô mon adorable génisse, j'ai dévoré tous les lauriers, j'ai ruminé des myosotis. Viens avec moi vers d'autres lieux, nous verrons passer des express, ça nous changera des trains de banlieue. Profitons de notre jeunesse, car tu le sais, un jour prochain, tous deux sur le même étalage, ton museau côtoiera le mien. Orné d'un même persillage. Alors, ça, c'est le... ça, c'est le slow rock.
Magnifique. Alors là, vraiment, Michel Bernstein, merci, parce que je trouve que c'est une redécouverte, ces chansons flash de Claude Serra. Ici, enregistré d'ailleurs, alors désolé, c'est ni au Cheval d'Or, ni à la Méthode, ni chez Bernadette. C'est enregistré au Port du Salut.
Oui, je pense.
Voilà. C'était aussi un endroit important, évidemment.
Oui, mais là encore, c'était un endroit à table et à couvert. Alors j'y suis allé quelques fois pour entendre des gens qu'on aime, comme Anne Sylvestre, mais ce n'était quand même pas le bistrot.
Voilà, c'est ça. C'est une distinction très importante.
Très importante.
Ça existe encore, d'ailleurs. Hein,
le Port du Salut. Hein.
La Méthode aussi, je crois.
Enfin, il y a toujours des cafés à ces endroits-là, parce qu'on y fait de la musique. Oui, c'est
ça,
une autre affaire.
Ça s'appelle encore comme ça.
Malheureusement, et voilà, tout ça s'est terminé. Et puis aussi parce que vous avez suivi d'autres chemins, l'un et l'autre. Alors, Serge Corbet, vous êtes resté au Cheval d'Or à peu près jusqu'au début des années 60.
Non, un peu plus tard, jusqu'en 61.
Oui, c'est ça.
Après, j'ai travaillé à l'Olympia.
Et après, vous êtes parti à l'Olympia travailler avec Jean-Michel Boris.
Voilà. Jean-Michel Boris venait au Cheval d'Or découvrir de nouveaux talents pour l'Olympia. Et un jour, il m'a emmené avec lui pour travailler à l'Olympia.
Voilà, et là, vous êtes entré vraiment dans le monde du musical, puisque vous avez été amené à côtoyer aussi bien Joséphine Baker, Edith Piaf.
Oui, absolument, avec qui j'ai travaillé, et puis avec Jacques Tati, qui avait mis en scène Jour de fête à l'Olympia.
Voilà, donc c'était évidemment un monde complètement différent, enfin qui restait un monde de chansons.
Oui, mais c'était quand même un monde de chansons, oui, c'était pas très différent, donc.
Ouais, les grandes prestations d'Edith Piaf, ça vous a beaucoup marqué ?
Beaucoup.
Ouais.
Elle était sur scène quelqu'un de formidable et en coulisses quelqu'un de totalement abattu.
Ouais.
On la portait pour la mettre devant le micro et lorsque le rideau baissait, on venait la chercher. Le machiniste la prenait dans ses bras et la ramenait dans sa loge. Mais devant le micro, c'était une autre femme, c'était absolument magnifique. Elle n'avait pas perdu sa voix et c'était... très émouvant.
Il y avait là aussi un certain Jean-Marie Prolier.
Oui, que j'ai mis en scène, par contre. Ça a été ma première mise en scène à l'Olympia. Le rideau s'ouvrait, il n'y avait pas de présentateur sur scène. On appelait Jean-Marie Prolier en coulisses, il n'arrivait pas. Et là, je faisais envoyer un film avec Jean-Marie Prolier dans la rue, en retard, en train de courir, qui rentrait dans l'Olympia, se faisait engueuler par Cocatrix. Et la projection s'arrêtait et il rentrait dans la salle. En s'excusant, en montant sur scène. Et là, on projetait un film avec sa conscience professionnelle. Et lorsqu'il présentait les numéros, sa conscience professionnelle
intervenait, bien sûr.
Et le critiquait de ce qu'il racontait. Voilà.
Voilà donc, en tout cas, Serge Corbet, on peut dire tout ce qui a précédé votre carrière de cinéaste.
Oui, plus le film que j'ai fait sur Joséphine Baker, car il m'avait demandé de la filmer dans les répétitions parce qu'elle faisait ses adieux tous les ans à l'Olympia.
Voilà, bien sûr.
Et elle voulait se souvenir de ses places et de ses pas et ainsi de suite.
Je crois qu'il faudra qu'un jour vous veniez et qu'on évoque toute cette période et toute la suite, puisque je le rappelle, pour mon plaisir, voilà, bon, j'ai un foot de Funès, vous avez par la suite tourné aussi deux films importants avec Louis de Funès, où la musique, en particulier dans l'homme orchestre, est très très présente, à tel point qu'on va écouter justement tout de suite Louis de Funès dans Les Poupons, extrait de votre film L'homme orchestre.
Fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux la vie.
Elles étaient si belles que je n'ai pas pu résister. Je voyais en elles la beauté.
Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est grave la vie.
Et moi dans leur cœur, je retrouvais la vérité. En plein bonheur me raisonner.
fais la 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 la. Pense aux conséquences. Les poupons, les biberons, les berceaux, les landaux, les pipis et les bobos. Les bobos.
Louis de Funès dans L'Homme Orchestre, un film de Serge Corbert qui était avec nous ce matin pour évoquer une époque bien plus ancienne, celle de la contrescarpe, du Cheval d'Or et de son amitié aussi donc avec Michel Bernstein. Et quant à vous donc Michel, eh bien vous l'avez dit, vous êtes allé chez Bernadette, vous êtes allé à la Vieille Grille qui a ouvert un petit peu après également. Vous avez continué quand même à vous intéresser à tout ça. Entre-temps, vous aviez publié un roman également, Tous les chevaux du roi. Et donc voilà, ça commence.
Ça a coïncidé à peu près, c'était en 60 ça. Mais à l'époque de la méthode, je travaillais dans une maison d'édition juridique.
Mais tout ce cheminement, peu à peu finalement, malgré tout, vous vous éloignez un petit peu du monde des cabarets.
Après, c'est la dérive du continent.
Voilà. Vous partirez d'ailleurs en Angleterre.
Longtemps après.
Vous garderez vos disques, mais pas spécialement peut-être de lien avec tous ces personnages, puisque vous avez retrouvé Serge Corbert assez récemment, finalement.
Oui. 60 ans,
j'aimerais bien revoir, oui.
Voilà. Et j'oserais dire, vous êtes resté peut-être plus proche de l'esprit très bohème, qui était celui des lettristes des années 50, plus que du côté plus politique qu'a pris ensuite le mouvement situationniste, j'ai l'impression. C'était ça aussi pour
vous.
C'est
aux autres de juger.
Oui.
Il y a des on-dit.
Voilà. Mais alors, il y a quelque chose qui me frappe tous les deux dans ces choix de ce matin, parce que je ne voudrais pas faire de politiquement correct, mais alors, on n'a passé que des hommes. Heureusement, vous étiez là, Michel Bernstein, pour que l'émission ne soit pas tout à fait seulement masculine, mais il n'y avait que des chanteurs, pas une chanteuse. Comment ça se fait?
Si,
il n'y en avait pas
même
dans les cabarets?
Mais si, il y avait Anne Sylvestre.
Oui, mais justement, on dit que c'était la première, en fait. Il y en avait très peu.
Il n'y en avait pas beaucoup. Oui.
Vous seriez bien étonné si je vous disais, au fond, je suis un homme. Non, c'est vrai, il y avait plus de garçons.
Michel Bernstein, vous n'avez jamais engagé à la méthode de chanteuse?
Si.
Oui.
Mais c'est pas moi, c'est les garçons qui l'ont engagée. Elle était très mauvaise.
Ah oui, oui. Bon, alors on dira pas son nom.
Oui.
Et au Cheval d'Or, donc
il y avait Anne Sylvestre, il y avait Charlotte Julien.
Oui.
Busclin.
Bon, bah écoutez, alors, parce que pour terminer ce parcours, je propose qu'on se quitte avec une chanteuse de l'époque, Francesca Solvay.
Voilà. Si on avait retrouvé un disque de Bernadette, ça aurait été merveilleux, mais.
Du Rousseau, du Gontier, ça, ce sera pour une
Bernadette
prochaine émission.
Bernadette Dédé, on l'appelait Bernadette Dédé. On l'appelait Bernadette.
Bah, écoutez, elle aussi, on la salue si elle nous entend. Elle est bienvenue à ce micro avec Claude Serra et avec également Daniel Laloux. On fera peut-être une nouvelle émission comme ça. Merci en tout cas à tous les deux. On va se quitter avec La Fille des Bois, une chanson de Francesca Solville. Et vraiment, j'étais très heureux de pouvoir avec vous ce matin remonter
merci
le temps.
Benoît, c'était super.
Merci Michel, merci Serge.
Quand je me souviens de ma belle enfance et des boniments que j'ai entendus sur le mois de mai et ses espérances, j'étais l'oiselet piégé dans la glu. J'étais une enfant, c'est incontestable, mais une enfant moche comme je ne sais quoi. Par définition, une enfant coupable qu'étant l'aventure le soir au coin d'un bois. Ce bois pleurait la chevêche, elle en avait l'air, mais ce garce-là, au lieu de gémir, se riait de ma dèche et de mes pieds nus bleuis par le froid. Une nuit, j'aperçus aux branches d'un chêne deux ou trois pendus en guise de pavois. Les fruits ressemblaient à des fruits d'ébène, alors j'esquissais le signe de la croix. Le chef-d'œuvre d'un grand capitaine qui peuplait le pays de ses souvenirs. J'étais bien trop jeune pour sentir ma peine, ça ne m'empêchait pas de me rendormir. Les marteaux venus d'un pauvre village galopaient la nuit de peur des narquois. Mais moi j'attendais sans doute un beau page vêtu d'écarlate, coiffé comme un roi. La nature mesure est bonne pour tous ceux qui bougent. Plus tard, un vaurien m'a prise par la main. Ceux du coin du bois l'appelaient Dono le Rouge. Il m'a dit, sauteuse, le lit est dans le foin. Ce fut la kermesse tendre et libertine, jusqu'au jour fatal où je le vis tout droit. Dans l'aube livide, quand la guillotine tendait ses deux bras devant le bécois. Alors, comme il faut une fin à toute chose, aussi décrépite qu'un hibou tondu, je suis revenu reprendre ma pose à l'orée du bois du bon temps perdu. C'est l'heure de la fin pour les vieilles drôlesses. Je ne vaux pas plus qu'un fagot de bois mort. C'est peut-être l'image d'une vie sans sagesse, mais pour la sagesse, c'était pas mon fort.
La fille des bois, une chanson de Francesca Solville qui referme notre évocation des années bohèmes de la montagne Sainte-Geneviève, évocation que je vous ai proposée avec mes deux invités, Michel Bernstein, dont vous pouvez d'ailleurs lire ou relire les deux romans, Tous les chevaux du roi et La nuit, réédité ces dernières années chez Alia, et puis Serge Corbert, dont on trouve également assez facilement, je crois, les films à voir ou à revoir, Un idiot à Paris ou encore L'homme orchestre.
Thank you.
Rossini, Guillaume Tell, le pas de Troie, un merveilleux morceau de ballet pour chœur et orchestre intitulé La danse légère, interprété par l'Orchestre National Philharmonique avec l'Ambrosiane Opéra Chorus sous la direction de Ricardo Chailly.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Et puisque c'est bientôt les vacances, j'ai décidé de me faire plaisir et je crois de vous faire plaisir aussi avec à nouveau une évocation de mon cher Maurice Yvain, ce très grand compositeur d'opérette du XXe siècle, à mon avis le dernier grand de la lignée de l'opérette française dont malheureusement on joue trop peu les œuvres, et notamment cette œuvre que j'adore qui s'appelle Là-haut, qui a été un de ses plus grands succès en 1923, créée par Maurice Chevalier avec Dranem dans le rôle du fantaisiste sur la scène des Bouffes parisiens. Un immense succès qui se déroulait au paradis, enfin un paradis imaginaire qui ressemble un petit peu dans l'œuvre au Casino de Paris avec en forme d'ange des petites jeunes filles ravissantes et des rythmes très enlevés. Et puis aussi d'autres morceaux basés sur les jeux de mots de l'excellente Albert Villemette. Par exemple, cette chanson qui m'enchante puisqu'elle est basée, puisqu'on est dans un sujet religieux, sur l'expression Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Mais quand c'est d'une fille nommée Anna qu'il s'agit, voilà ce que ça donne.
Il y avait un jour une petite fille, très docile, très sage et très gentille, adorant sa maman, son papa, qui répondait au nom d'Anna. Mais hélas, quoi qu'on fasse ou qu'on dise, elle était tellement indécise et manquait tant de volonté qu'on cessait de lui répéter « Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu, Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux, parle cause, Anna ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le, méfie-toi. Et crois-moi, à force de lambiner, tu verras qu'ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide d'être timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Sitôt sa mort, cela va sans dire, ayant fini sa vie de martyr, saint Anna près du bon Dieu bondit directement au paradis. Mais devant la porte, la pauvrette n'osa pas toucher à la sonnette. Alors, afin qu'elle sonnât, tout le paradis entonna
« Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu. Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux. Parle, cause, Anna, ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le.
Et on aura reconnu Aimé Donia avec les chœurs et l'orchestre de Radio Lyrique dans cet extrait de Là-haut, une opérette de Maurice Yvain que j'encourage vivement tous les directeurs d'opéra en France à monter au cours des prochaines saisons. Et puis avant de se quitter, alors une autre page encore beaucoup moins connue de Maurice Yvain. Après Là-haut, il a enchaîné les succès, Pas sur la bouche, Un bon garçon, Gosse de riche, Yes. Et puis d'autres œuvres moins connues comme Cas du bec, Vacances, Encore 50 centimes. Et il a reconnu à nouveau un assez grand succès en 1933 avec l'opérette Au papa, toujours sur un livret de son complice André Barde. Il y a un final formidable au deuxième acte. Il se trouve que il y a beaucoup de quiproquos comme toujours dans une opérette, et les deux personnages principaux font croire dans cette scène qu'ils sont en fait le père et la fille qui viennent de se retrouver par le plus grand des hasards. On écoute donc cet enregistrement sous la direction de Jean Doussard.
J'ai retrouvé tout à coup,
elle a trouvé tout à coup,
ça m'en fait trembler mes genoux, tellement c'est fou, celui que j'avais perdu,
bien sûr elle l'avait perdu,
un hasard inattendu, soudain l'a rendu, ma bouche sourit en prononçant le nom chéri,
sa bouche sourit en prononçant le nom chéri,
je vous présente mon papa. Mon cœur fait tigre et mon aigrigue, car la famille, ça ne se remplace pas. Papa, 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 j'ai retrouvé mon petit papa. Je suis sa fille, c'est mon papa.
ans c'est trop.
À 20 ans c'est vraiment trop.
Que je l'ai garé dans le métro au Trocadéro pendant 2 années entières.
Pendant 2 années entières.
Je l'ai cherché jusqu'aux frontières, même à la fourrière. Je l'ai repéré au grain de beauté qu'elle m'a montré.
Il l'a repéré au grain de beauté qu'elle a montré.
Papa, 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 je vous présente son papa. Mon cœur fétille et mon œil pille, car la famille, ça ne se remplace pas. Papa, 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 elle a trouvé son petit papa. C'est bien ma fille, je suis son papa. C'est bien la fille à son papa. Que l'on ne voit qu'au ciné, ou comme on vous en raconte dans les cafés.
Tu vois café.
Tout ça est bien subtil, mais comment se fait-il? Vous soyez reconnus aujourd'hui seulement, quand vous vous rencontrez journellement. Faut-il encore répéter que c'est à cause du grain de beauté?
En tout cas, c'est bien curieux, expliquez-vous mieux.
S'il est dans un endroit imprévu, comment l'avez-vous vu? L'héritière de mon sang ne m'a montré rien d'indécent de ce que peut voir un papa. Le grain de beauté n'est pas en bas, 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 ni au milieu. Comme on le croit, mais il était trop haut pour moi. Je suis petit, mais oui, ça m'interdit, hardi, de voir les femmes, tant pis. Un peu plus haut, leur pomme d'api. Comme un bébé, petit,
petit,
on la cabine,
sur la cabine,
petit,
petit,
ne permet pas, j'en ris, de voir le monde
s'afficher.
Je suis petit,
réduit,
j'ai un ennui, ça nuit,
ça oui,
mais ma vie Dieu merci,
il est
grand dessus,
je suis petit. Bonjour, on va prospérer,
bonjour, on va prospérer, je veux le célébrer, avec une défaissance, j'offre le cocktail de reconnaissance.
Et pour un cocktail, on restera.
Elle pense tout de suite à la ripaille, c'est bien le fruit de mes entrailles.
Papa, 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 je vous présente mon papa. Mon cœur fait tigre, mon cœur fait tigre, ma
famille, ça ne se remplace pas. Papa, 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 elle a trouvé son petit papa. C'est bien ma fille, je suis son papa. C'est bien la fille à son papa.
Christiane Issartel, Dany Barrault, Jacques Trigot et beaucoup d'autres avec le nouvel orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Jean Doussard dans cet enregistrement de Au Papa de Maurice Yves. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission préparée par Annie Comier avec aujourd'hui la technique Philippe Mercher, réalisation Christine Amado. Et rendez-vous pour la dernière de la saison. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Jean-Christophe Keck pour évoquer l'été des festivals d'opérette. Bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.